Catherine le matin. Voici le Doc Mayou.
Bonjour, Docteur May.
Catherine, Raphaël, Serge, Claude, bonjour, le matin bonjour. Des surprises.
Ah oui.
Bien, Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières. Ça vous a pas fait sursauter un peu?
Ben, L'Ordre des infirmières, c'est un homme.
C'est un homme.
Le fait que c'est un homme?
Bien là, l'Ordre des infirmières, c'est 95% de femmes. Elles se sont élues un homme à leur tête.
Et on rappelle que c'est l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Absolument.
Oui, 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 mais président de l'Ordre des infirmières à 92% féminin. Alors, le 5 novembre 2018, conseil d'administration a décidé d'élire Luc Mathieu, leur président.
Oui, et c'est récemment, là. C'est en novembre dernier.
Et après ça, ben, vous viendrez vous lamenter.
Il n'y a personne qui s'est lamenté.
Parce qu'un homme ne peut pas défendre les droits des femmes qui sont infirmières?
Là, écoute, quel message on envoie aux jeunes femmes du Québec?
Bon, c'est quoi le message?
Vous n'êtes pas capable de vous défendre. Lorsque vient le temps de vous représenter, ça vous prend un homme.
Mais c'est pas une première, ça?
Je crois qu'il n'y a jamais eu un homme à la tête de l'Ordre des infirmières du Québec.
Non, exact. Je sais pas.
C'est le message envoyé aux jeunes femmes qui me fout en rogne le matin.
Ah oui?
J'ai rien contre Luc Mathieu. C'est un type qui est qualifié. Il a été vice-doyen à Sherbrooke. Je crois qu'il a été vice-doyen à la faculté de soins infirmiers.
Ben, c'est un homme qui a un doctorat. Là. Je regardais hier là, dans mes recherches. Il y a un doctorat en administration des affaires, je pense.
Ben oui.
Oh, oui
mais quel message vous envoyez aux femmes?
Ben, je
l'avoue, je l'aime bien. Vous êtes des incapables. Alors, quand ça va mal, puis ça barde, allez-vous chercher un homme.
Voyez,
Après ça, venez me traiter de misogyne.
Il était directeur académique du Centre de formation continue de la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke.
Doc, j'ai une question, par exemple, juste pour clarifier les choses. Est-ce que l'homme en question a été embauché par l'Ordre ou il a été élu par les membres?
Élu.
Il est élu.
Oui, il est élu.
Non, il n'est pas embauché, il est élu.
Oui.
C'est ça.
Ouais.
Donc, c'est 95% des membres qui sont des femmes qui ont voté pour lui.
Oui.
C'est-à-dire, c'est le conseil. Non, attendez un peu, là. Je ne crois pas que ce soit laissé au suffrage. Je pense que le président, c'est comme Maurice Godreau, le nouveau président du Collège des médecins. Je crois qu'il est élu par le conseil d'administration.
Oui, ils disent les administrateurs de l'Ordre.
Il n'est pas élu au suffrage universel des professionnels.
Non, exact. C'est le conseil d'administration. Auparavant, Lucie Tremblay avait été là pendant longtemps. Là. Je pense qu'elle avait fait 3 mandats, Mme Tremblay.
Oui.
Elle était là pendant plusieurs années. Ben, écoutez, comme membre du conseil d'administration, outre le fait homme-femme, on a choisi le plus compétent? Est-ce que c'était le plus compétent actuellement?
Mais quel message vous envoyez?
Ah, mais Dr Mayou, lâchez-moi le message. Le gars, il est compétent. Moi, comme femme, c'est comme si vous me disiez, ça me dérange pas d'avoir une patronne féminine parce que je suis une femme. Non, mais vous comprenez, si le gars, il est compétent, puis il me représente
bien. Non, moi, je comprends pas qu'un autre professionnel composé à 92%, puis trouvez-moi les chiffres, là.
Ouais, mais Dr.
C'est autour
Mayou,
de 90, sinon plus.
C'est pas les membres, c'est pas les 75 000 membres qui ont voté. C'est
ben
le
oui,
CA.
Mais si j'étais une infirmière ce matin, j'entends Luc Mathieu, si compétent fût-il, je l'entends parler, est-ce que je me sens représenté?
Oui, mais dans la pratique au quotidien d'une infirmière, ça change quoi? Pas grand-chose? Non, c'est puis c'est peut-être... Non,
mais moi, je suis d'accord.
Je vais vous donner mon son de cloche. Écoute,
c'est parfait.
Je vais pas plus loin.
OK, on l'entend.
Moi, je suis d'accord avec Catherine. En fait, j'inverse la situation. Si, par exemple, je prends par exemple la construction. Alors, une femme serait à la tête de l'association, la PCHQ, tiens, l'Association des professionnels en construction et habitation du Québec. Est-ce que ce serait la même chose? C'est parce que c'est le domaine de profession ou...
Ben, le domaine, oui.
Mais je vais vous donner un exemple.
C'est encore pire parce que...
Pourquoi c'est encore pire?
Vous savez, vous vous fendez le derrière en quatre pour essayer de valoriser, de rendre les rapports égalitaires, hommes-femmes, d'amener la parité salariale. Vous arrêtez pas de nous écœurer avec ça. Puis là, ce matin, vous nous arrivez avec un président de l'Ordre des infirmières. Bon, OK, c'est correct.
Ouais, mais
c'est moi qui ce matin, va de surprise en surprise.
Mais je vous donne un exemple.
J'en ai une, oui.
Ouais, j'en ai un exemple concret, Raphaël, donner un exemple.
Ben oui.
Moi, j'en ai un à vous donner. Au dernier gala Radisson, là, la personnalité féminine de l'année, là, son nom m'échappe malheureusement, c'est une femme qui est arpenteur, qui est une des principales firmes au Québec. Elle est devenue la première femme de l'Ordre des arpenteurs. C'est la première fois que ça arrivait, alors que c'est un domaine drôlement masculin, l'arpentage. Ouais,
mais ça fait combien d'années que ça existe, le concours chapeau les filles, pour les femmes, justement, inciter des femmes à aller dans des métiers non traditionnels?
Ouais.
Pour les femmes, ça existe depuis X années, ouais. Depuis 20-25 ans que ça existe.
Madame Chantal Arguin, je pense.
Exactement, tu as tout à fait raison.
D'Arguin et Associés.
J'ai la réponse concernant le pourcentage des membres de l'Ordre des infirmières et infirmiers. C'est 88% qui sont des femmes et 12% qui sont des hommes.
Ouk!
En 2017-2018.
Je m'excuse l'erreur.
Non, ben je comprends votre point, mais je vois pas.
88%.
OK.
Oui, 88%. Bon, mais toujours est-il que, écoutez, c'est une remarque et je n'argumenterai pas avec vous ce matin.
Non, ah, c'est...
Non, qu'est-ce qui se passe? Là-dessus.
Ah non, pas là-dessus. Regardez, non, c'est...
Son de cloche et je... Retrait préventif.
Ah! Ben, première fois que vous l'utilisez, votre retrait préventif. Ah, il y a une réalité qui est là, Dr Mayou. On va le rester dans le domaine de la santé, par exemple.
Oui.
C'est les infirmières qui se font violenter, tabasser. Oh boy. C'est raconté ce matin dans le Journal de Montréal. Là. C'est une infirmière oui. auxiliaire de la Beauce oui. qui en a même perdu son bébé parce qu'elle a reçu un coup au ventre. Il y en a beaucoup, là.
Oui. Oui, oui. Il y a toutes sortes de patients avec toutes sortes de problématiques. Alors, on en parle plus, ça a toujours été. Il y a de la violence... Et lorsque j'étais psychiatre à l'hôpital Sainte-Marie, pouvez-vous croire que j'ai dû me battre avec Mathieu Vaillancourt, le directeur de l'hôpital à ce moment-là, dans les années 80, pour installer un gardien en permanence sur chacun des deux étages psychiatriques fermés pour protéger les infirmières. Et j'ai dû, pendant 6 mois, prescrire un gardien afin de forcer la main à Mathieu Vaillancourt pour embaucher sur 3 chiffres un homme disponible sur l'étage, sur chacun des 2 étages en tout temps. Parce qu'il y avait, je considérais qu'il y avait trop de risques de violence envers les infirmières.
Ah oui. Ben, visiblement, c'est encore le cas aujourd'hui.
Oui. Bravo, Danielle McCann, soit dit en passant.
Oui.
Elle a fait plier les genoux de Maurice Godreau, le président du Collège des médecins. Alors, la nouvelle ministre a du cran avec les infirmières spécialisées. C'est de bon augure. Maintenant, il y aurait lieu d'accompagner la formation académique avec une reconnaissance d'expérience pratique. Je vais aller plus loin ce matin. Puis je vous soumets ça. Mm-hmm. Alors, il y a des infirmières qui travaillent, par exemple, en psychiatrie ou en cardio ou en soins intensifs.
Oui.
Comprenez-vous? Alors, après 10 ans, elles deviennent très bonnes et pourraient peut-être se voir attribuer des privilèges de diagnostic et de prescription ou de modification de traitement ou une participation accrue à la prise en charge des patients. Est-ce que c'est bien dit?
Oui, c'est bien dit. Mais c'est bien dit. J'ai l'impression que vous n'êtes pas nombreux à penser ça comme médecin.
Oh non, je suis le seul.
C'est ça, encore une fois, vous êtes tout seul. Parce que là...
Ça vient de moi, là.
Oui, oui, OK. Mais pensez-vous qu'il y a plusieurs de vos collègues qui endosseraient ce que vous dites?
Je m'en fous! Okay. Je m'en fous!
Non, mais je vous cherche de l'appui ce matin, là.
Oui.
J'essaie de vous donner de l'appui. Mais je trouve votre propos... Je vous seconde à 2000%.
Alors, c'est une mesure transitoire, cher Luc, j'espère que tu nous écoutes, Luc Mathieu.
Oui.
Alors, cher Luc, on pourrait, en attendant 2024, que les infirmières qui travaillent dans une spécialité pourraient savoir, et même dans certains groupes de médecine familiale, GMF, elle pourrait se voir attribuer des responsabilités supplémentaires. Cher Luc, on peut travailler sur 2 tableaux, absolument. Un cerveau masculin, ça peut poursuivre plus qu'une tâche
ah
en
oui?
même temps.
Ah oui?
Oui. Il n'y a pas seulement les femmes qui peuvent faire 2 choses.
Je ne sais pas, parce qu'on dit souvent...
Cerveau masculin, on peut prendre... Écoute, il peut y avoir une piste qu'on poursuit à moyen terme, mais on peut en prendre une plus rapide.
Mais avez-vous... moi, ce que j'ai remarqué en fin de semaine, là, ce qui m'a... sauté aux yeux, c'est le fait que, alors que le Collège des médecins dit « Ouais, finalement, On va être d'accord avec la ministre. On vous suit. Avez-vous vu que deux jours plus tard, il publiait un guide, puis les autres, ils disent que c'est un pur hasard. Laissez-moi douter du pur hasard. Donc, le guide pour un partenariat réussi, médecin, infirmière, praticienne spécialisée.
Oui.
Et que disent donc les grandes lignes directrices d'un partenariat? Elle différencie notamment les rôles de l'IPS et du médecin. Ainsi, l'IPS procède à une évaluation avancée de l'état du patient, alors que le médecin procède à l'évaluation médicale. Le guide précise également que le médecin partenaire de l'IPS n'est pas responsable des activités médicales exercées. L'IPS est pleinement imputable des gestes qu'elle pose. Oui, le médecin ne peut être tenu responsable. Là, je me disais que deux jours plus tard, on s'entend qu'ils sont semi d'accord, ils n'ont pas eu le choix de dire qu'ils sont d'accord. C'est un peu malsain, vous trouvez pas?
Oui, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Il y a une espèce de rivalité.
Mais pourquoi?
De guerre inutile, qui n'est pas à l'avantage des patients.
Non, c'est ça.
Pourquoi? C'est le moi, c'est le narcissisme. Alors, c'était un domaine d'homme et c'était une relation homme-femme. Ça paraissait jusqu'à un certain point.
Ah oui?
Alors, les moi masculins fragiles sont beaucoup plus susceptibles que... Maintenant, avec la féminisation de la profession, là, j'ignore ce qui est en train de se passer. On va le voir graduellement. Catherine?
Oui?
Il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, mm-hmm. et j'aimerais le partager avec vous autres. Là.
Oui.
C'est dans le Soleil de Québec. Mm-hmm. Il y a un article concernant le jeune autiste de 17 ans qui a tué sa mère à coups de couteau.
Oui.
Dans Limoilou.
Oui.
Il y a quelques jours, ouais. Et, écoutez, attachez vos tucs. Il y a une première expertise qui a été faite et qui confirme que l'adolescent est apte à subir son procès. Deux lignes plus loin, on lit ceci. Ce garçon de 17 ans, qui vit dans un centre de réadaptation pour déficient intellectuel, visitait sa mère les fins de semaine. À titre de psychiatre, je me dois de vous dire que c'est vraiment surprenant, là. Un autiste de 17 ans, vit dans un centre avec des déficients intellectuels,
ouais.
mais est apte à subir un procès au Palais de justice de Québec. Alors, il connaît le rôle de tout le monde, son avocat, l'avocat de la couronne, le rôle du juge. Il a été reconnu capable de contribuer à sa défense en cours et il a été reconnu apte à donner des instructions à son procureur, à son avocat. Comment concilier le fait qu'il est dans un centre de réadaptation pour déficients intellectuels, mais il connaît tout le système judiciaire suffisamment pour subir un procès?
Je suis d'accord avec vous. Je sais pas. Je me questionne. Et savez-vous sur quel aspect je me suis questionnée?
Oui, vas-y.
Non, c'est que vous parlez du centre de réadaptation où il habitait. C'est situé dans Chaudière-Appalaches. Et contrairement à un centre jeunesse qui est soumis à une loi, dans un centre de réadaptation, c'est sans contrainte. Tu sors, tu rentres comme tu veux, tu peux aller visiter ta famille. Mais tu sais, dépendamment du degré d'autisme, ça se peut-tu que ce jeune-là avait un potentiel dangereux? Visiblement, potentiellement, oui. C'est bizarre, tout ça.
C'est l'aptitude à subir le procès. Comment un jeune de 17 ans peut vivre avec des déficients intellectuels dans un centre de réadaptation et connaître la vie comme un citoyen qui a aucun handicap?
Je ne sais pas. Moi non plus, je ne la comprends pas, celle-là.
À titre de psychiatre, je dois vous dire que ça m'a beaucoup surpris. Remarquez bien, tout est possible.
Ça se peut, oui. Mais maintenant, dans des cas comme ça, est-ce qu'un expert...
Où a-t-il acquis autant de connaissances sur le fonctionnement de l'appareil juridique?
Bonne question.
Et s'il est à ce point connaisseur de l'appareil judiciaire, pourquoi le maintenez-vous dans un centre de réadaptation pour déficients?
Je sais pas. J'ai pas de réponse, Dr Mayhew.
Non, j'en ai... C'est parce que...
Mais vous soulevez des très bonnes questions. Non, je le sais. Vos questions sont très pertinentes. On va voir la suite des choses.
C'est mon domaine de spécialité, hein, puis ça fait 39 ans et demi que je fais des expertises. Alors là, j'ai sursauté. Je lis ça parce que je m'intéresse beaucoup à cette cause-là. c'est à titre de psychiatre expert, ça me concerne toujours. Et là, je lis ça ce matin. On va lui faire subir une deuxième évaluation sur la responsabilité criminelle.
C'est ça. Il est apte à comparaître, mais on veut évaluer sa responsabilité criminelle.
Oui. Alors, il peut être apte à comparaître maintenant.
C'est ça.
Mais il est important de statuer sur l'état, son état mental au moment du délit.
Parce que là, il va être hospitalisé pendant 30 jours.
Oui.
Donc, écoutez, on verra la suite des choses, mais j'avoue que vos questions sont pertinentes ce matin. Docteur Mayo, on s'arrête là-dessus. On vous retrouve à la commission PM avec Robert et dans votre émission. Oui. À tantôt, Docteur Mayo. Donc, commission PM à 9h05 avec Robert. On est en Facebook Live également, je vous le rappelle, lors de la commission PM.